de ce grand texte d'Ésaïe 53, dont un savant, un hébraïsant fameux du 19e siècle disait qu'il semble avoir été écrit sous la croix du calvaire. Je vous propose de prier pour que nous nous préparions à notre moment d'entretien et que le Seigneur soit avec nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer pour ta parole, pour sa sûreté, pour sa clarté, pour la capacité qu'elle a d'engendrer la vie dans notre être entier. Nous te demandons de nous aider à recevoir tout ce que tu veux nous donner par elle pendant ce premier moment de notre rassemblement aujourd'hui. Empêche-nous de dévier, donne-nous la docilité de cœur et le désir constant de te louer pour la richesse de ta grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous vous rappelez l'histoire? Le ministre des Finances du Soudan roule sur la route de Gaza. Il est là dans son véhicule de fonction luxueux et il lit un livre qu'il a acheté tout récemment. Un livre qui le fascine. Tout à coup, sur cette route qui est en général déserte, il y a quelqu'un, un autostoppeur, il le prend. Et cet autostoppeur, qui s'appelle Philippe, ose lui demander, assez à brûle-pourpoint, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et ce ministre a l'humilité d'avouer qu'il n'y comprend pas grand-chose. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Le passage qu'il était en train de lire était un passage du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Et il interroge Philippe en demandant, mais de qui parle le prophète? De lui-même? De quelque autre? Et commençant par ce passage, Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a montré que c'est Jésus qui avait vécu juste quelques années auparavant, qui a réalisé dans sa vie, sa mort et sa résurrection, ce qui est annoncé à l'avance dans cette prophétie du 8e siècle avant Jésus-Christ ou du début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors nous allons essayer de lire ensemble attentivement, en comprenant bien tout, ce passage d'Ésaïe 53, comme on dit habituellement, en fait, aussi les premiers versets d'Ésaïe 50, les premiers versets de ce passage à la fin d'Ésaïe 52. Et nous verrons au fur et à mesure comment ces paroles se sont effectivement accomplies lors de la venue de Jésus sur notre terre. Je vais lire ce passage. Je ne vais pas le lire dans une version à laquelle vous êtes accoutumé, mais je vous recommande d'avoir votre Bible ouverte justement pour faire la comparaison. Comme j'ai travaillé ce texte, j'ai fait une traduction qui correspond à la compréhension que j'ai de l'original dans le détail. J'appartiens à une petite commission qui s'occupe de la Bible à la colombe, qui en retouche le texte. Donc je suis bien placé pour savoir qu'aucune traduction n'est parfaite, que les choix des gens qui s'y connaissent un peu peuvent varier, et par conséquent, qu'il est loisible de proposer au moins des traductions parallèles, légèrement différentes de certains versets dans l'Écriture. C'est toujours intéressant, donc, de considérer les différences. J'essaierai de vous expliquer, sur quelques points au moins, quelle est la raison du choix que je fais plus tôt. Donc, il s'agit du passage qu'on appelle parfois le quatrième chant du serviteur de l'Éternel. Je vais expliquer dans quelques instants cette façon de parler, au chapitre 52 d'Ésaïe, verset 13. Et puis, il y a tout le chapitre 53 qui suit. Je vous propose donc la traduction suivante. « Voici, il se montrera sage, mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il connaîtra l'exaltation suprême. » de même que sur toi des multitudes se sont désolées. Oui, on lui a fait perdre forme humaine. Il a été inhumainement défiguré. Oui, il purifiera par aspersion des multitudes de nations. De même, devant lui, des rois se tairont de stupeur, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas rapporté, ils percevront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Qui a cru à notre message? Qui a cru reconnaître le bras de l'Éternel? Devant lui, il a grandi comme un rejeton, comme une pousse qui sort d'un sol desséché, sans allure et sans éclat pour retenir nos regards, sans apparat pour nous attirer. Méprisé, laissé pour compte par les hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme quelqu'un dont on détourne les yeux, il a été méprisé. Il n'a trouvé chez nous nulle estime. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il supportait, de nos douleurs il s'était chargé. Et nous, nous l'avons estimé frappé de coups humiliants par Dieu. C'était à cause de nos crimes qu'il se faisait, lui, transpercer, à cause de nos fautes qu'il se faisait écraser. Sur lui retombait la punition qui nous procure la paix, et dans sa blessure vit notre guérison. Tous comme des moutons, nous nous étions égarés, chacun choisissant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui notre faute à tous. On l'a opprimé, humilié, et il n'a pas ouvert la bouche. On l'a traîné comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Par violence judiciaire, on l'a pris. Mais qui se préoccupe de son sort? Qu'il a été retranché du monde des vivants, qu'à cause du crime de mon peuple, le coup mortel lui a été porté? On l'a enterré avec les impies. Il s'est retrouvé dans la mort avec le riche, alors qu'il n'avait jamais causé de tort, ni trompé personne. Il relevait du plan de l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Si tu agrées sa vie en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance, ses jours se prolongeront et le plan de l'Éternel, par son moyen, aboutira. Pour fruit de sa peine, il verra la lumière à satiété. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera les multitudes, car il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui ferai partager le butin parmi les multitudes. Avec beaucoup, il partagera les dépouilles, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé compter au nombre des criminels. C'est lui qui a porté le péché des multitudes, et pour les criminels, il est intervenu. Premier préliminaire, repérer la place de ce passage dans l'ensemble du livre d'Ésaïe et surtout dans la partie qui commence au chapitre 40. J'ai dit tout à l'heure qu'on appelle couramment cette prophétie le quatrième chant ou poème du serviteur de l'Éternel. C'est donc qu'il y en a trois autres de la vie des spécialistes. Oui, on trouve dans les chapitres du livre de la consolation d'Israël qui commence au chapitre 40 par ce grand appel « Consolez, consolez mon peuple », on trouve plusieurs passages qui semblent annoncer un personnage mystérieux qui jouera un grand rôle dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Ce personnage est appelé généralement le serviteur, mon serviteur par Dieu, d'où l'expression « le serviteur de l'Éternel ». Certes, il n'est pas seul à porter ce titre. Israël aussi est appelé serviteur dans les mêmes chapitres. Et même le roi païen Cyrus est présenté comme un serviteur de Dieu auquel Dieu donne la victoire, qui sert d'instrument à la réalisation du plan de l'Éternel. Mais on discerne quand même qu'il y a encore quelqu'un d'autre, de plus particulier, qui s'appelle par excellence le serviteur. Et il est dévoilé progressivement. Un spécialiste évangélique, un anglais, a dit que c'est un peu la technique du roman policier. Vous savez que dans un roman policier, il s'agit de découvrir celui qui a fait le crime, l'assassin. Et toute la technique de l'auteur consiste à donner par petites touches successives des indices qui vont permettre, au bout du compte, l'identification de l'assassin. Donc le récit se déroule, mais vous avez là un passage qui vous met déjà sur la voie, et puis un autre ensuite qui dévoile un peu davantage qui est celui qu'on cherche. De même, dans les chapitres du livre d'Ésaïe, qui commence donc au chapitre 40, plusieurs passages révèlent par touches successives ce qu'il en sera du serviteur. Il y a des passages très courts, il y en a au moins deux à mon avis, je n'en parle pas, et il y a trois passages assez longs qui précèdent celui que nous venons de lire. Au chapitre 42, le serviteur est présenté comme un prophète sur lequel repose l'esprit de l'Éternel et qui jouera le rôle d'un nouveau Moïse, parce que Dieu va faire alliance par lui avec son peuple, et il sera un Moïse non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, car il est dit qu'il sera la lumière des nations. Et puis ce thème est repris au chapitre 49, de manière plus développée. Là, le serviteur paraît être le véritable Israël, celui qui concentre en sa personne ce qu'Israël aurait dû être, lui qui était établi comme serviteur de l'Éternel, mais qui en fait a déshonoré son Seigneur. Le serviteur sera le parfait Israël en une seule personne, et il rassemblera ceux qui vont constituer le nouveau peuple de Dieu avec lui. Il sera la lumière des nations pour que le salut de Dieu atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il aura aussi à souffrir. Il est dit qu'il sera méprisé, qu'il sera comme détesté par la nation. Et puis un troisième passage au chapitre 50 souligne à la fois sa docilité, il est là toujours à l'écoute du Seigneur qui l'a envoyé, il retransmet fidèlement la parole, et d'autre part, il est obligé de se faire un visage de marbre, de silex, sous les attaques qu'il subit pour ne pas flancher. On lui crache au visage, on lui arrache la barbe, on l'accuse. Mais le Seigneur va le justifier. Et puis après ces trois grands passages, qu'on appelle donc assez couramment les trois premiers chants du serviteur de l'Éternel, nous avons celui qui est le plus long, le plus riche, qui est le sommet de cette révélation, au chapitre 52, 13 et 53. Donc vous situez le texte que nous venons de lire ensemble. Deuxième préliminaire, avant que nous le relisions, si vous voulez, dans le détail, et que nous voyons comment le Nouveau Testament lui fait écho, de quelle façon dans la vie de Jésus-Christ nous trouvons des correspondances, la structure même de ce passage. Beaucoup de gens passent à côté, et pourtant c'est très éclairant. Ça nous aide à bien saisir ce qu'il en est. D'abord, il faut reconnaître la fonction des trois versets qu'on a au chapitre 52. Ce bout du chapitre 52 à la fin, c'est une sorte de prologue. C'est un résumé du thème qui ensuite se trouve développé. Vous avez souvent, ou en musique aussi, d'abord l'énoncé du thème, une sorte de présentation plutôt globale, et puis, alors c'est la mise en œuvre en détail, avec des phases successives. Le thème principal de l'ensemble de la prophétie se trouve résumé dans les versets 13, 14, 15 du chapitre 52. Et quel est-il ce thème? Je crois que vous le reconnaissez aisément, et quelle que soit la traduction. Le thème, c'est celui du contraste stupéfiant entre l'élévation et l'abaissement. Ou, pour parler de manière plus exacte encore, l'énigme du passage par l'abaissement pour parvenir à l'élévation. Le prologue de notre passage, donc, annonce que le serviteur sera exalté de manière suprême, mais qu'avant de connaître cette gloire, Alors il devra passer par une défiguration inhumaine, quelque chose d'incroyable. C'est là le thème, avec dans le verset 15 l'indication que même des rois en seront stupéfaits. Ce thème général donc présenté, ensuite le corps du poème prophétique, donc l'ensemble du chapitre 53, se divise très commodément en quatre strophes. Quatre sections, si vous préférez. Et chaque fois, c'est très commode, ces trois versets. La division des versets a été bien faite à cet endroit. Chaque fois, ces trois versets, donc vous avez 1 à 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 à 12. Et on remarque que ces quatre strophes sont de longueur croissante. Elles ont chacune trois versets, mais les versets sont de plus en plus longs. Donc ça veut dire qu'il y a, dans la forme même, comme le reflet de l'amplification de la révélation qui est faite. Un progrès se manifeste de cette façon. Et ces strophes font alterner deux grands thèmes. Strophe A, les faits. Strophe B, leur sens. Strophe A, versets 1 à 3, nous allons avoir une première série de données concernant la vie du serviteur, sa manière de se présenter. Et puis, dans la strophe B, 4 à 6, nous aurons un commentaire sur la signification de ces données. Pourquoi en a-t-il été ainsi? On n'ira pas encore jusqu'au fond, mais c'est bien le sujet. L'interprétation qu'on peut donner des faits même qui sont annoncés. Et puis, de nouveau une strophe A, vous avez un rythme A, B, A, B, de nouveau une strophe A qui présente les faits concernant le serviteur. Des versets 7 à 9 nous disent ce qu'il en a été de lui et tout spécialement nous parlent de sa mort. Et puis les versets 10 à 12 alors développent la signification de nouveau de cette mort. Voilà, et puis revient au thème de l'exaltation qui avait été lancé tout au début. Vous voyez la structure qui est très très bien composée de ce passage. Et si nous la discernons, cela nous aide à bien comprendre. Nous prenons donc, si vous le voulez, avant que vous ayez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, si vous le souhaitez, j'ai l'habitude dans les cours à la faculté. Donc, si vous le voulez bien, nous prenons maintenant la première de ces strophes, en comprenant bien qu'elle nous résume en quelque sorte l'ensemble du thème. Voici, il se montrera sage, mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il connaîtra l'exaltation suprême. Nombre de traductions, au lieu de dire il se montrera sage, ont, comme la Bible à la Colombe, je la prends pour référence, il prospérera. Voici mon serviteur, il prospérera. En fait, le verbe dans l'hébreu a les deux sens possibles. Et les deux sens sont liés. C'est d'ailleurs pour cela que le même mot signifie ces deux choses très couramment en hébreu. Celui qui est sage, c'est-à-dire qui sait s'y prendre, qui fait les bons choix, en général, il réussit. Et celui qui s'engage très, très sottement à l'aventure, et bien souvent ça lui retombe sur le nez, c'est l'échec. Donc il y a un lien entre la sagesse et la réussite. Ce n'est pas automatique, nous sommes bien d'accord. Dans ce monde tordu, il arrive que des actions très sages ne conduisent pas au succès, mais malgré tout, entre sagesse et réussite, il y a le plus souvent un lien. Et surtout si l'on considère les choses globalement, du point de vue de Dieu, celui qui agit selon la sagesse de Dieu aboutit à la réussite selon Dieu pour le total de sa vie. Alors les deux sens peuvent convenir ici. Pourquoi est-ce que j'ai choisi il se montrera sage? Parce qu'il me semble que le prophète, serviteur, est aussi un maître de sagesse d'après les suggestions des précédents passages. Ce n'est pas un prophète, d'après le chapitre 42, du genre foudroyant, un peu comme Élie, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, C'est plutôt un prophète enseignant, un prophète calme. Et donc, il me semble que traduire « il se montrera sage », c'est rappeler cette note qui le caractérise. Cela dit, traduire « il prospérera, il réussira » n'est pas faux non plus, n'est-ce pas? Donc, ce qui est en cause ici, c'est l'exaltation suprême, le triomphe qui attend le serviteur. Bien sûr, tout de suite, alors nous nous rappelons que le Nouveau Testament annonce le triomphe suprême du Seigneur Jésus, l'annonce comme déjà réalisé, en un sens, et de façon invisible, car il a dit « tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Et qu'il annonce aussi, quant à la manifestation visible et à l'exécution sur notre terre, pour le jour de son retour, lorsque tout œil le verra, lors de son avènement. Certains, comme il y a trois verbes ici, il montera, il se lèvera, il connaîtra l'exaltation suprême, trois verbes qui signifient à peu près la même chose, hein, qui donnent la même idée, ont suggéré que ça pouvait correspondre aux trois étapes de la glorification du Seigneur. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il règne et reviendra. Oui, vous pourriez attribuer chacun de ces trois verbes, mais ils signifient à peu près la même chose, aux trois grandes phases de la glorification de Jésus-Christ, mais je crois que ce n'est pas là quelque chose qui puisse ressortir du texte avec précision. Simplement, c'est vrai que ça convient. Donc, annonce de l'extraordinaire glorification qui attend le serviteur. Mais, au verset 14, changement très soudain, de même que sur toi des multitudes se sont désolées. Oui, on lui a fait perdre forme humaine, il a été inhumainement défiguré. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? La traduction n'est pas facile du tout, la grammaire dans l'original est heurtée, on a l'impression que le prophète est lui-même bouleversé au moment où il parle, à cause de ce qu'il voit d'avance. C'est tellement, tellement incroyable. La traduction de la Bible à la Colombe, son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam, et correcte, c'est une traduction littérale qui convient. Mais vous voyez, j'ai essayé de rendre cela d'une manière un peu plus français courant, pour que nous comprenions mieux en disant, donc, on lui a fait perdre forme humaine, il a été inhumainement défiguré, c'est une traduction qui est aussi exacte. Vous remarquez un passage de la deuxième personne à la troisième personne. De même que sur toi, des multitudes se sont défigurées et se sont désolées. Oui, on lui a fait perdre forme humaine. Cela, vous le trouvez aussi dans la Bible à la Colombe, ce passage du « tu » au « il » qui est dans l'original. Que signifie cela? Certains, et je ne peux pas l'écarter tout à fait, certains pense que le « tu » s'adresse à Israël et que nous aurions une comparaison ici entre les malheurs d'Israël au moment de l'exil, de la destruction de Jérusalem et du Temple, et le sort qui va attendre le serviteur. De même que sur toi, Israël, des multitudes se sont désolées, on lui a fait perdre forme humaine, à lui le serviteur, qui est en un sens, comme nous avons vu d'après le chapitre 49, le véritable Israël en personne. Ce n'est pas tout à fait exclu, mais je ne pense quand même pas que ce soit la meilleure interprétation. L'interprétation la plus courante me semble préférable ici, à savoir que c'est aussi le serviteur qui est ici interpellé à la deuxième personne, et puis dont il est question à la troisième. En hébreu, on passe beaucoup plus facilement du « je » au « tu » ou « il ». C'est vraiment beaucoup moins rigide que cela ne l'est en français. Donc, il me semble préférable de considérer que le prophète parle d'abord au serviteur, le voyant d'avance, sur toi, des multitudes se sont désolées, et puis ensuite, alors, se tournant en quelque sorte vers ceux qui entendront sa prophétie, diront « lui a fait perdre forme humaine ». Surtout que cette clause, on lui a fait perdre forme humaine, il a été inhumainement défiguré, correspond à une incise. Moi, j'ai mis dans ma traduction, si vous voulez, des tirets. Oui, on lui a fait perdre. lorsqu'on met de même, ainsi que nous avons à la colombe, on ne respecte pas, en fait, les mots qui sont exactement dans l'original. Vous n'avez pas, au début de la ligne du verset 14, le même mot qu'en deuxième ligne. Donc, je crois que le de même aura son autre de même pour lui répondre un peu plus loin, au début du verset, à la deuxième ligne du verset 15, mais qu'il faut prendre la remarque sur la défiguration du serviteur comme intercalée. De même sur toi, des multitudes se sont désolées, de même devant lui, des rois se tairont de stupeur. Voilà le de même. Voilà le point de comparaison. Des multitudes se sont désolées devant la souffrance qu'il a dû connaître, ont regardé avec effroi le sort par lequel il passait. De même, des rois stupéfaits vont lui rendre hommage. C'est toujours le thème de l'opposition entre l'abaissement et l'élévation. Et puis alors, entre deux, vous avez la remarque explicative sur le caractère inhumain des souffrances qu'il a subies, et une deuxième. Oui, il purifiera par aspersion des multitudes de nations. Vous avez cette expression aussi dans la Bible à la colombe, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Ceux qui ont la vieille Bible second, qui était moins exacte bien sûr que la Bible à la colombe, s'apercevront que là il y a une différence assez importante. Car la vieille Bible seconde disait de même il sera pour beaucoup de nations, de peuples, le sujet d'une grande joie, un sujet de joie. Ce n'est pas une traduction légitime et exacte. En fait, le verbe qui est employé ici, partout ailleurs dans l'Ancien Testament, signifie faire l'aspersion. Faire l'aspersion. C'est un verbe qui est utilisé dans le Lévitique et qui n'a pas d'autre sens dans l'hébreu de l'époque tel que nous pouvons le connaître, d'après tous les emplois qu'on a dans l'Ancien Testament. Alors pourquoi est-ce que second ne l'a pas traduit comme ça? Et il y a d'autres versions qui n'ont pas non plus traduit comme ça, qui ont fait un peu comme second. Parce que ces gens-là n'ont pas compris, simplement. Ils n'ont pas compris que nous avions un résumé du thème général de tout le passage. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que vient faire ce mot asperger ici? Faire l'aspersion, ça ne veut rien dire, vous cherchez autre chose. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché autre chose. Alors, vous pouvez comparer des versions en dehors donc, de la Bible à la colombe, et vous verrez que les traductions ne correspondent pas. C'est un sujet de joie, surprendre, faire tressaillir. Mais, en fait, si on a compris que nous avons un résumé de ce qui suit, et qui, bien sûr, alors est difficile à comprendre, en tant que c'est tellement condensé, alors... La traduction normale, faire l'aspersion, convient très bien. C'est un terme du Lévitique, c'est un terme qui est associé à tout le discours sur les sacrifices, aux lois sur les sacrifices. Or, il est question, au verset 10, d'un sacrifice, le sacrifice de culpabilité. Donc, c'est un mot qui est tout à fait à sa place. Il fera, grâce à la souffrance extraordinaire qu'il subira, ce que fait le prêtre quand il asperge du sang du sacrifice l'autel. Il fera un acte de sacrifice, d'expiation sacrificielle. Voilà ce que signifie cette expression. Après donc cette explication, nous avons le point que j'ai déjà mis en valeur, à savoir que les rois seront obligés de lui rendre hommage, ce qui était déjà annoncé au chapitre 49, d'ailleurs, et associé à l'idée de l'hommage qu'ils rendront aux serviteurs, il y a leur étonnement, il y a leur stupeur devant la voie étrange qu'il aura dû suivre pour connaître la gloire. C'est quelque chose qui n'aura jamais été raconté. Des choses, comme dit le Nouveau Testament, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Vraiment un message unique, le message de la souffrance du serviteur de l'Éternel comme la voie nécessaire de son triomphe. Il y a un passage du Nouveau Testament qui est construit sur la même opposition à bien des égards et qui peut être considéré comme le jument, le répondant, l'écho, comme vous voulez, de ce passage-ci et tout spécialement de son prologue. C'est le grand texte de Philippiens 2, de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Vous vous rappelez que ce texte nous raconte que Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas considéré comme un butin à défendre, une aubaine à garder pour lui, d'être égal avec Dieu, d'être à égalité avec Dieu, mais qu'il s'est humilié lui-même, qu'il a pris forme de serviteur, qu'il s'est rendu semblable aux hommes, et obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est le passage qui rappelle l'abaissement de Jésus-Christ, et qui dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons le même contraste, la même annonce que la voie de l'abaissement était la voie de l'élévation aussi. Voilà donc pour ce grand prologue dont vous voyez déjà la correspondance avec ce que le Nouveau Testament proclame de Jésus. Alors maintenant, c'est le développement, au chapitre 53. Bon, je vois que le temps a passé d'une façon faramineuse, alors je vais aller très très vite, et oui, c'est bientôt 10h30. Les trois premiers versets, ils ne sont pas difficiles à comprendre, ils montrent le serviteur comme quelqu'un qui est venu très très humblement, sans faire du bruit, pas comme un conquérant avec ses motards pour lui ouvrir la voie, mais comme une petite pousse de rien qui sort d'une terre desséchée, aucun apparat officiel, pas de trompette pour annoncer qu'il était là, homme de douleur, familier de la souffrance. Oui, je traduis comme ça parce que le texte ne dit pas connaissant la souffrance. Le participe qui est employé du verbe connaître est le participe passé, connu de la souffrance. Souvent nos traductions ne rendent pas cette nuance ici. La traduction de la Colombe dit habitué à la souffrance, mais littéralement c'est connu de la souffrance. Alors je traduis familier de la souffrance. La souffrance le connaît bien. Elle lui rend visite tous les jours. Et tout spécialement la souffrance du mépris qu'il encourt. Alors, versets 4 à 6, le sens de cela. Eh bien, le sens que nous avons spontanément, nous les humains, donné à ces faits, c'est que c'est un pauvre type, qui sans doute avait bien mérité de souffrir comme il souffrait. Dieu bénit ceux qui marchent dans ses voies. Dieu châtie ceux qui le dédaignent, et bien donc si ça va si mal pour lui, c'est qu'il a dû faire quelque chose qui a déplu à Dieu. C'est des coups que Dieu lui porte. Voilà l'interprétation des faits. Bon, voilà certainement été l'interprétation de pas mal de juifs dans son pays, au moment où Jésus a vécu, lui pauvre, lui qui pouvait dire que le Fils de l'homme, il s'appelait comme ça, volontiers n'a pas de lieu où reposer sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alors, beaucoup de gens ont dû dire, c'est certainement bien fait pour lui. Alors que le vrai sens est juste à l'opposé. Ce sont nos souffrances qu'il supportait. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. La punition que nous avions méritée, qui nous procure donc la paix avec Dieu, être en règle avec sa justice. C'était ça qui le faisait souffrir, sous quoi il se courbait. Voilà le vrai sens des souffrances qu'il portait. Vous voyez, c'est ça la signification des versets 4 à 6. Et le verset 6 est particulièrement intéressant. Tous comme des moutons, nous nous étions égarés. Vous savez, quand il n'y a plus de berger pour les conduire, quand il y a un mouton un peu fou, alors il se disperse et ce sont les moutons de Panurge. Il y a des centaines de moutons pour suivre un seul qui va vers le précipice. C'est exactement comme ça que les humains, que nous, les êtres humains, nous nous comportons, vraiment comme des moutons de Panurge. Les gens en vue peuvent choisir les itinéraires les plus imbéciles des voies de perdition, et tout le monde suit. Tous comme des moutons, nous étions égarés, chacun choisissant sa propre voie. Ah oui, je veux, décider moi-même. Et en fait, mouton de panurge. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute, notre faute à tous. Puis on revient à la signification, au fait plutôt. On revient aux données plus précisément. On l'a opprimé, humilié, traîné comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté d'une parfaite sérénité, sans élever la voix. Vous vous rappelez que c'est exactement comme ça que Jésus s'est comporté devant Pilate, devant le Sanhédrin. Il n'a pas ouvert la bouche, ou à peine, n'est-ce pas? Au lieu de pousser des grands cris, par violence judiciaire, on l'a pris. Littéralement, l'expression dans l'hébreu, c'est par contrainte et jugement. Disons que les deux mots qui sont employés, par contrainte et par jugement, on l'a pris. Il a été pris. Normalement, ces deux mots ont ce sens-là comme sens premier. Alors, au lieu de traduire « il a été emporté par la violence et le jugement » comme le fait la Bible à Colombe, je crois qu'il faut comprendre les deux mots associés et dire « c'est une violence judiciaire ». C'est une violence. Le droit n'était pas du côté de ceux qui sont venus saisir Jésus. Mais c'était dans les formes du droit. Il y a eu un procès, prétendument un jugement. Donc c'est par violence judiciaire qu'il a été pris, qu'on l'a pris. La deuxième ligne dans le verset 8 est traduite très différemment dans ce que je vous propose de ce que l'on a dans la Bible à la Colombe. La Bible à la Colombe a, dans sa génération, qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, et je vous propose, mais qui se préoccupe de son sort, qu'il a été retranché du monde des vivants. Les deux possibilités sont dans l'original. Simplement, il y a un mot qui peut signifier le sort, le lieu où l'on se trouve, la demeure, et qui peut aussi signifier la génération. Alors, je crois que ça donne un meilleur sens, qu'on comprend mieux si on choisit de traduire le sort. Et la traduction que je vous propose est une traduction littérale qui ne change pas le texte. Mais, disons, sachez qu'il y a d'autres options. Qu'il a été retranché de la terre des vivants, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est mort. C'est l'expression typique dans la Bible pour la mort. La violence judiciaire de laquelle il a été victime a été jusqu'à l'exécution. Retranché de la terre des vivants. Et c'est aussi ce que dit la dernière ligne. Le coup mortel lui a été porté. Là, il s'agit d'une autre façon de lire les consonnes du texte hébraïque, mais qui correspond à la vieille version grecque, la version dite des Septante, et que je crois donc préférable à celle qui a été employée, cette façon de lire, dans la traduction de la Bible à la Colombe. De toute façon, ça ne change pas ce que révèle clairement ce verset, à savoir que le serviteur doit être mis à mort. Et le verset qui suit montre que c'est tout à fait littéral, car c'est suivi de l'enterrement. On l'a enterré, on a mis son sépulcre avec les impies. Il s'est trouvé là, dans la mort, alors qu'il n'avait jamais causé de tort, ni trompé personne. Vous savez que cela aussi s'est accompli, le Jésus-Christ a été enseveli. Il a été enseveli et a vraiment connu l'état de mort, pas seulement l'instant de la mort, le retranchement, mais l'état de mort. Ce qui fait partie du châtiment du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, le passage de la mort, mais aussi l'état de la mort. Alors qu'est-ce que cela voulait dire? Comment cela a-t-il été possible s'il n'avait commis aucune fraude, s'il avait toujours fidèlement servi le Seigneur? Le verset 10 est le plus mystérieux et en même temps le plus éclairant, si vous voulez. Il relevait du plan de l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Oui, il a plu, le verbe qui est traduit, il a plu à l'Éternel dans beaucoup de traductions, et la Bible à la Colombe est aussi employée pour le plan de Dieu. C'est son dessein. C'est pas que ça lui faisait plaisir par une sorte de joie mauvaise, masochiste, ou je ne sais. c'était son plan. C'était le dessein qu'il avait conçu dès avant la fondation du monde et pour notre salut. Il relevait du plan de l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Si tu agrées sa vie en sacrifice de culpabilité, c'est dit à Dieu par le prophète. Il comprend que cette souffrance, c'est celle du sacrifice de culpabilité. La loi de Moïse avec les sacrifices avait enseigné que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'il faut qu'un sacrifice soit offert pour réparer la faute, pour effacer la culpabilité. Et donc la mort du serviteur est dans le plan de Dieu comme le moyen d'effacer la culpabilité. Sacrifice de culpabilité. Et alors, la suite du verset montre que si cette œuvre est faite, est opérée, alors ce sera la pleine réalisation du plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que le péché soit expié, que la faute soit effacée, de telle sorte qu'il puisse se réconcilier avec les humains et les conduire dans son royaume. C'est pour ça qu'il a dit que, après cette œuvre, il verra une postérité, une descendance, qu'il prolongera ses jours, ce qui veut dire qu'il ressuscitera d'ailleurs. Il faut bien, c'est pas dit expressément, mais c'est impliqué, et que le plan de Dieu, par son moyen, aboutira. Pour fruit de sa peine, il verra la lumière. Les mots « la lumière » ne sont pas dans le texte que les rabbins nous ont légué, mais ils se trouvent dans le grand manuscrit d'Ésaïe à Qumran et dans la version ancienne des Septante. Alors c'est certainement original. Il verra la lumière. C'est comme un grand tunnel sombre que le moment de sa passion, de son abaissement, mais il débouche du tunnel dans la lumière de la résurrection, la lumière de Pâques. Et à ce moment-là, alors le sens de son œuvre apparaît. Elle permet la justification d'une multitude. Tous ceux qui connaissent personnellement le Seigneur sont justifiés par lui, car il s'est chargé de leur faute en sa mort. Et le verset 12 souligne alors l'ampleur du triomphe. Il partagera le butin qu'il a acquis par sa mort, le triomphe sur l'adversaire, sur le diable et sur tous ses sbires, sur la mort même et la culpabilité, parce qu'il s'est laissé lui-même compter au nombre des criminels. Il a porté le péché des multitudes. Et alors, dans le début de ce verset, je vais achever par là, puisque je me rends compte que c'est l'heure, au début de ce verset, beaucoup traduisent « Il partagera le butin avec les puissants », comme nous avons dans la Bible à la colombe pour la deuxième ligne. Je crois pouvoir montrer que le mot ne doit pas être traduit « puissant » ici, mais plutôt « nombreux » ou « multitude » ou « beaucoup ». C'est un mot qui évoque la puissance, mais la puissance du nombre, dans beaucoup, beaucoup de passages, surtout quand il est employé en parallèle avec le premier terme, qui veut dire aussi nombreux, comme nous avons. Ça, la Bible de la Colombe l'a respecté. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Mais ça peut vouloir dire je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, ou je lui ferai partager le butin avec beaucoup d'hommes. Et je crois que c'est le meilleur sens. Le serviteur va faire une œuvre qui le conduira à la gloire. Il aura triomphé de la mort et du péché. Mais ce butin, est-ce qu'il va le garder pour lui tout seul? Mais non, il a fait tout cela pour ces multitudes dont il a porté les péchés. Alors il va partager avec elles. Il va partager les dépouilles avec ces nombreux que nous sommes. Car si nous sommes ici, ce matin, si nous pouvons nous réjouir ensemble, c'est parce que nous faisons partie de ces multitudes dont Jésus a porté les péchés, et avec qui, maintenant, il partage le butin de la victoire et de la vie. Voilà le message d'Ésaïe 53, dont vous voyez à quel point il correspond au Nouveau Testament. Monsieur Facon, je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions, peut-être pas. Hein. J'ai parlé trop longtemps.
Merci, Carnel, pour une étude très riche, qui nous donne à travailler. Et puis la cassette, si M. Fauché ne pourra pas l'objectif, la cassette sera disponible, et vous pouvez revoir ce message de ce Messie, ce serviteur parfait qui a pris sur lui nos péchés. Nous bénissons qu'à cause de lui, nous pouvons vraiment avoir la joie en croix aujourd'hui. Nous nous demandons de diriger, de bénir le culte qui va suivre. Que ton nom soit exalté. Nous cherchons surtout ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.